spécialiste du voyage culturel. Réservation au 01 40 08 50 40 ou sur intermet.com.
Éric Kioch sur Radio Classique.
7h37, tout de suite l'heure des spécialistes avec Christian Macarian. Bonjour Christian.
Bonjour Éric.
Et donc ces législatives en Espagne ont rendu leur verdict, le virage à droite tout n'a pas eu lieu. Certes, le Parti Populaire est sorti en tête des urnes avec 136 sièges, mais son seul allié potentiel, le parti d'extrême droite Vox, n'en a que 33, insuffisant donc pour la majorité absolue. Des résultats qui ont déjoué tous les sondages. Christian, que s'est-il passé réellement en Espagne?
Alors, ce qui s'est passé avant tout, suite à un schéma désormais très bien connu dans toute l'Europe et vérifié presque partout. Premièrement, les sondages se sont encore trompés. Deuxièmement, la droite ne remporte pas la majorité absolue des sièges, ce qui écarte donc totalement la perspective d'un gouvernement droite-extrême droite brandi comme un épouvantail, vous l'avez dit, Eric. Et troisièmement, la gauche n'est pas vraiment sanctionnée, contrairement à ce qui avait été parfois annoncé avec des accents apocalyptiques, disons-le.
Parce que c'était un pari, de Pedro Sanchez, ces législatives anticipées.
Évidemment, quand on regarde des élections pareilles, chacun pense à son propre pays à travers toute l'Europe. En clair, la droite a remporté les élections, mais pas suffisamment pour prendre le pouvoir. Et la gauche a perdu les élections, mais pas au point d'être chassée du pouvoir. Alors, faisons les comptes un peu plus précisément. La droite, représentée par le Parti Populaire, dirigé par le sénateur de Galice, Alberto Núñez Feijóo, avec deux O, F-E-I-J-O-O, remporte 136 sièges sur un total de 350 au sein du Congrès des députés, soit 47 sièges de plus que lors des précédentes législatives de 2019. C'est un succès, mais on est très loin des 150 sièges que prétendait atteindre Alberto Núñez Feijóo, et encore plus loin des 176 sièges nécessaires à la majorité absolue. L'extrême droite Vox, alliée électorale du Parti Populaire, perd 19 députés par rapport à 2019, mais en conserve 33. La gauche, de son côté, obtient 122 sièges. Le Parti Socialiste gagne même quelques sièges par rapport à 2019, auxquels il faut ajouter les 31 sièges du Parti de gauche radical Sumar, qui signifie additionner, ce qui fait 153 députés au total.
Alors justement, Christian, quand on additionne tous ces sièges, sur votre calculette, qu'est-ce que dit votre calculette justement? À qui profite ce résultat?
Eh bien, ma calculette dit le contraire de la logique arithmétique. Si je compte bien, ça fait 169 sièges pour la droite et l'extrême droite, et 153 seulement pour la gauche, ou encore 33,05% pour la droite, contre 31,07% pour le PSOE de Pedro Sanchez. Donc, dans tous les cas, la droite est devant. Or, cela met, paradoxalement, la gauche en bien meilleure posture que la droite pour pouvoir former un gouvernement. Alors, pourquoi?
Alors, justement, c'est ça la question. Pourquoi?
Parce que la droite aurait besoin impérativement de l'abstention des socialistes pour former un gouvernement. Or, les socialistes ont fait clairement savoir qu'ils ne s'abstiendraient pas, surtout pas pour faciliter l'accession au pouvoir de la droite. Dans les rangs de la gauche, en Espagne, on a de nouveau scandé le vieux slogan antifasciste « No pasarán », ils ne passeront pas. Par-dessus tout, la gauche dispose, elle, de réserves, une réserve électorale supplémentaire à travers les partis régionalistes basques et catalans, pour qui alors Vox, le parti d'extrême droite, est un épouvantail unitaire et souverainiste absolument repoussant. S'il arrive donc à rassembler autour de lui les partis régionaux, le chef du Parti Socialiste et, ou plutôt, l'ancien Premier ministre espagnol sortant, Pedro Sanchez, pourrait compter sur 172 députés au total, soit 3 députés de plus que la droite. Il serait gagnant. Sauf que Pedro Sanchez devra au passage faire des concessions absolument dramatiques pour l'esprit national espagnol, des concessions aux Catalans du mouvement Junts, fondé par Carles Puigdemont, qui défendent, ces Catalans de Junts, l'idée d'un référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Autrement dit, une union un peu trop serrée entre les socialistes de Sanchez et les Catalans de Puigdemont donnerait tout simplement, ouvrirait la voie à un danger pour l'unité nationale.
Et donc les indépendantistes de Catalogne qui ont 7 sièges, si je ne me trompe pas.
Oui.
Et donc c'est un leader en exil à Bruxelles qui aujourd'hui peut être faiseur de roi.
Oui, le leader, Carles Puigdemont, que j'ai personnellement rencontré plusieurs fois et qui a un discours aussi construit que radical, réside en Belgique où il a trouvé refuge. Il se déplace souvent dans d'autres pays. Il a tenu le congrès de son parti à Argelès-sur-Mer en France et il est interdit de séjour en Espagne où il est menacé d'arrestation. Donc, évidemment, pour Sanchez, compter sur cette réserve électorale-là, c'est à double tranchant.
Dernière question. Justement, au vu de ces résultats en Espagne, est-ce que les autres pays européens peuvent en tirer une leçon, et nous particulièrement ?
Écoutez, disons que l'Europe est soulagée parce que Pedro Sanchez a sauvé les meubles en faisant campagne sur son bilan économique qui présente incontestablement des aspects positifs. Mais Sanchez a surtout insisté sur le danger que représente pour lui la collusion entre le Parti populaire, parti de droite classique, et Vox, parti d'extrême droite. Or, non seulement Vox affole les régionalistes, les autonomistes, voire les indépendantistes, mais Sanchez a mis en avant une sorte de spécificité espagnole en matière de mœurs qui a provoqué aussi le rejet de Vox et de la droite. L'Espagne est en effet un pays qui passe pour très avancé dans toute l'Europe en ce qui concerne les droits de la femme ou le droit des minorités LGBTQIA+. Et alors l'éventuelle alliance du PP et de Vox aurait remis en cause tout ce projet de société et également affoler les régionalistes. Donc la leçon progressiste, entre guillemets, est entendue partout en Europe où les mêmes questions se posent. Mais il y a tout de même une leçon plus amère. L'Espagne se retrouve encore aujourd'hui plus ingouvernable qu'avant les élections. La bipolarité droite-gauche a certes permis d'aplatir les extrêmes, mais l'électorat s'est aussi bipolarisé, alors que le pays a besoin de consensus national face aux grands sujets économiques, sociaux, ou songez par exemple à la question migratoire, qui est un vrai problème pour l'Espagne. Il faut une idée nationale forte, ne serait-ce que pour répondre légitimement aux pulsions ou aux élans indépendantistes qui se font jour au Pays Basque ou surtout en Catalogne. Entre le Giorgia Mélonisme italien, si je puis dire, le macronisme et son balancement droite-gauche et le blocage à l'espagnol, franchement, l'Europe latine a décidément beaucoup de mal à suivre la voie du contrat de coalition à l'allemande. Rappelons tout de même que le dernier contrat de coalition allemand représente 177 pages prévoyant tous les cas de figure possibles et imaginables, et que c'est une spécificité dont l'Europe latine est encore à ce jour incapable. Merci.